Alors, vous savez que, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la grande aventure de la vie familiale. Peut-être plus que jamais, évidemment, ça a toujours été le cas dans toutes les époques. Mais plus que jamais, la famille aujourd'hui passe par, disons, des phases, des transitions difficiles. Et particulièrement dans cette évolution de la famille d'aujourd'hui, il y a la place irremplaçable, très particulière et aujourd'hui de plus en plus importante des grands-parents. Voilà. Donc ici, tout le monde est grand-parent, on est bien d'accord. Parce que je vois bien que la société demande de plus en plus aux grands-parents. Ça passe évidemment concrètement par vos propres enfants, vos petits-enfants, mais la société, sans le reconnaître et sans même reconnaître la valeur de votre situation, finalement, elle vous demande beaucoup. Pourquoi l'identité des grands-parents n'est pas assez considérée? Ben parce que on est des gens du passé, on est des vieux, on voyait cette mentalité de mai 68 qui a fait dire que ce qui est avant, ça c'est pas intéressant. Et il y a le jeunisme, vous savez, le jeunisme, cette philosophie qui prétend que ce qui est jeune a de l'avenir. Mais nous, on n'a pas d'avenir, forcément. C'est pour ça qu'on nous met un peu de côté. Peut-être particulièrement les vieux. C'est pas en tant que grands-parents, mais en tant que vieux, on a tendance à le mettre de côté. Les EHPAD, vous voyez, c'est quelque chose que dans beaucoup de civilisations, on ne comprend pas que l'on est des EHPAD, qu'on met les vieux à part, autrement dit. Donc, vous voyez, cette mentalité-là, elle ne porte pas à reconnaître vraiment ce que sont les grands-parents. Et de fait, ce n'est pas très simple. C'est ce que nous allions essayer de comprendre, c'est quelle est notre mission. Moi, je prétends que nous avons une mission et qui est devenue importante. Alors en fait, on n'est pas tout à fait des éducateurs, parce que ce sont les parents qui doivent être les éducateurs de leurs enfants. Mais on va regarder ça, dans quelle mesure on peut prétendre peut-être avoir aussi une part d'éducation. On n'est pas complètement en retrait, mais en même temps, on voit bien que l'on reste des repères affectifs et surtout des transmetteurs d'histoire, parce que l'on fait intervenir un élément qui est très important, c'est le temps. Dans la construction d'un enfant, comme dans la construction d'une société. Nous sommes beaucoup plus des éléments de stabilité dans une société aussi perturbée. Nous sommes des sources de solidarité. On est souvent un véritable pivot dans nos familles. Alors, ce que je dis, ça ne s'applique pas exactement à toutes les familles, parce que ça l'est plus ou moins. Mais tout de même, on retrouve ces éléments qui sont un peu nouveaux. Surtout parce qu'on a engendré des familles qui peuvent connaître des difficultés dans l'existence, difficultés morales, matérielles, etc. Vous savez que les grands-parents en tant que tels, je précise que des grands-parents, ça peut être des couples qui sont grands-parents, mais ça peut être aussi des grands-parents seuls. À cause du veuvage ou du divorce, il y a beaucoup de grands-parents seuls. Ça va? Là, comme ça, on a bien défini les choses. Eh bien, les grands-parents pour la France, c'est 15 millions. Ça veut dire pratiquement le quart de la population française. Et surtout, on voit bien qu'ils jouent un rôle très essentiel en matière d'apport financier. Combien de grands-parents aident leurs enfants et leurs petits-enfants? Des apports affectifs, des apports d'organisation dans ces familles qui sont fragilisées. Mais c'est aussi vrai dans des familles plus aisées. Les grands-parents, vous, je dirais nous. Alors j'ai dit tout de suite que moi-même, je suis un grand-parent, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis un grand-père, mais je suis veuf. C'est pour ça que je me suis consacré et que j'ai été ordonné prêtre il y a 17 ans. Et moi, je suis un grand-père avec 8 petits-enfants, avec 3 enfants que j'ai mariés et puis 8 petits-enfants aujourd'hui. Donc je dis bien nous. Alors nous sommes peut-être âgés sur une certaine mélancolie, mais nous savons rester jeunes sur notre WhatsApp, n'est-ce pas? Qui ne fonctionne pas avec un WhatsApp pour avoir ses enfants, ses petits-enfants régulièrement? Il y en a qui ne pratiquent pas ça du tout, ça peut arriver. En tout cas, c'est tout de même quelque chose qui est assez précieux, je le vois au plan concret. Alors là, notre mission, quelle est-elle? Eh bien, de fait, je découvre qu'elle est très vaste. Parce que d'abord, il s'agit de prendre soin de tous nos enfants et petits-enfants, dans cette belle chose qui s'appelle l'unité. l'unité familiale. Et là, il y a quelquefois aussi beaucoup de combats. Mais c'est aussi, on le voit par les faits, que nous participons à l'éducation de nos plus jeunes. Et troisièmement, ça fait les trois parties de mon entretien, troisièmement, la question du sens de la vie et de la foi, transmettre la foi. C'est à nous bien souvent que ça nous est dû et que ça nous est possible. Voilà, donc c'est une mission assez vaste, voyez bien. C'est pas simplement prévoir de temps en temps un petit repas, des rencontres et penser à faire des cadeaux à Noël. C'est beaucoup plus que ça. Il y a ceux dans ces grands-parents, qui sont d'ailleurs très variés, il y a ceux qui sont encore en couple, ou d'autres qui ont été séparés par la mort ou par le divorce. Il y a ceux qui sont dans l'éloignement de leurs petits-enfants. Peut-être que vous en avez en Australie, ou je ne sais pas où, ça arrive. Et puis ceux, au contraire, qui sont tout proches, parce que vous habitez tout près d'eux. Il y a ceux qui ont une famille nombreuse, plusieurs enfants, plusieurs petits-enfants, et puis ceux qui sont avec un seul enfant, un ou deux petits-enfants. Il y a des enfants, des petits-enfants qui sont tout jeunes. Il y en a pour lesquels les petits-enfants sont déjà bien âgés. Ce sont des ados, voire des jeunes. Ça arrive parmi vous, ceux qui ont des petits-enfants qui sont déjà des grands jeunes, on va dire. Ça arrive. Voilà, ça arrive, bien sûr. Ça arrive même plus vite qu'on ne le croit, hein, n'est-ce pas? Et puis, il y a des grands-parents qui sont encore au travail. Ça peut arriver. Et puis souvent, beaucoup plus souvent, qui sont à la retraite, comme on dit. Mais vous savez, à la retraite, on travaille beaucoup, c'est bien connu. Hein. Alors voilà donc cette grande diversité des grands-parents. Il y a quelqu'un qui dit qu'être grand-parent, ça tient à 3 C. 3 C comme complicité, confiance et communication. Et puis j'en connais un autre qui en ajoute 3 autres C. C'est pas de conseils, pas de critiques et que des compliments. Voilà. C'est pour définir un peu notre mission. Alors, essayons de creuser maintenant ces 3 grands aspects, voyez. D'abord, la mission d'unité. Ben, d'unité parce que la famille, par définition, la nôtre, c'est plus le truc des parents et quelques enfants. Ça devient quelque chose qu'on appelle la famille élargie, comme ça qu'ils disent les sociologues. La famille élargie, c'est parce que justement, on a 3 générations. Concrètement, vous avez des enfants, souvent différents, et alors ça donne des petits-enfants qui sont encore plus différents. C'est l'alliance des 3 générations, qui est un truc beaucoup plus important qu'on le croit. Et des sociétés qui ont voulu casser ça, en ne s'occupant que de la famille nucléaire, parents-enfants, ce sont des sociétés qui ne savent plus se situer dans le temps. L'alliance des générations, c'est ce qui encourage justement à se donner de génération à l'autre que des bonnes choses. Pourquoi une génération a-t-elle vécu certaines choses, même quelquefois des drames, des expériences, sans qu'elle ait à en fournir le fruit aux générations qui suivent? Donc ça a beaucoup de bon. Cette succession des générations, elle est naturelle. Aujourd'hui, on a toujours 3 générations qui vivent ensemble. Et actuellement, à cause de l'allongement de la durée de la vie, vous savez qu'on voit même 4 générations, assez souvent, on a 4 générations qui vivent ensemble. Où est l'arrière-grand-mère là? Elle est passée où là? Elle est là, voilà. Ici, il y a une arrière-grand-mère, elle a déjà, combien vous m'avez dit? 6 arrières, voilà. Donc c'est assez courant qu'on voit maintenant 4 générations. En tout cas, cette succession des générations et cette richesse des 3 générations, c'est parce qu'on va avoir des différences assez importantes. Dans les familles, il y a la différence des sexes, la différence des histoires, la différence des mentalités, la différence des cultures. Connaissez-vous ce film qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Vous l'avez tous vu, hein ? C'est un film très drôle. L'histoire de ce notaire de province qui se retrouve avec 4 filles. Il y en a 3 qui lui ramènent, un juif, un musulman et un chinois, oui, c'est ça. Et puis, la quatrième, ils espèrent surtout qu'elle va épouser un catholique. Alors, elle arrive, la quatrième, dit « Oui, oui, c'est un catholique, papa et maman. » »« Ah, enfin !» Et c'est un Sénégalais. Voilà, donc ça fait cette variété extraordinaire de culture et même de religion. C'est une caricature, mais ça dit bien ce que peuvent être nos familles aujourd'hui, avec cette mondialisation qui fait que les étudiants sont entre eux avec beaucoup de pays différents. Erasmus et tout ça. Et puis aussi, vous avez avec le travail, on va vous envoyer travailler en Afrique, en Australie, etc. Ce brassage des populations qui ont largement dépassé les pays. Alors c'est ce qui fait cette variété. Mais c'est ce qui a aussi d'important dans cette famille diversifiée, c'est le décalage entre générations. Un décalage qui est un décalage d'âge. Mais comme on a un monde qui a beaucoup changé, d'une génération à l'autre, on dit qu'on change de monde pratiquement, parce que la culture a beaucoup changé sur peu de temps. Ce n'est pas comme ça dans l'histoire de l'humanité tout le temps. Mais il y a des moments où il y a cette accélération qui fait que d'une génération à l'autre, on se comprend beaucoup moins parce qu'on ne vit pas la même chose au plan culturel. Vous avez maintenant l'ère du numérique qui a fait quand même un changement culturel important. Vous avez des dérives morales aussi, je vais appeler ça comme ça en gros, parce que vous avez des gens qui vivent aujourd'hui le concubinage, le machin. On a des variétés de situations familiales qui sont devenues assez diverses. Et donc, c'est toutes ces différences dont notre mission à nous, c'est d'assurer de l'unité avec des gens aussi différents. Différences d'âge, différences de culture, voire de religion, etc. C'est accueillir les différences parce que c'est ça qui finalement fait la richesse de nos familles. On peut avoir des opinions divergentes. On peut avoir, c'est le cas beaucoup aujourd'hui, des régimes alimentaires différents. Vous avez vos enfants chez vous, il y en a un qui est vegan, l'autre qui ne mange jamais ceci, l'autre c'est... Alors, la cuisine, ça devient compliqué. Hein. Moi, je sais, en communauté, c'est comme ça. Dans ma maison, il y a au moins 7 ou 8 régimes différents. Voilà. Donc ça, c'est aussi les différences qu'il faut absorber. Des cultures d'origine différentes, des religions diverses. Et il y a aussi ceux qui disent qu'ils n'ont pas de religion. Voilà, il y a tout cela. Des styles de vie disparates. Et ce sont ces différences qui peuvent aussi engendrer, très vite, si on n'y fait pas attention, les différences engendrent des différends. C'est comme ça qu'on va se frotter, si on n'y prend pas garde. Alors que notre mission, c'est de faire de ces différences une richesse, surtout sur le principe que vous pouvez bien inscrire dans votre tête, c'est qu'on peut être en désaccord et pourtant s'aimer profondément. Il n'y a que dans la famille qu'on voit ça. Donc on peut avoir des idées politiques, des opinions, même philosophiques, tout ce qu'on veut, très différentes. Et en famille, on fait attention à ça, parce que ça ne doit pas empêcher de s'aimer. On le voit déjà dans les couples, qu'il y a ce genre de différences, des différences d'opinion. Ben, je suis désolé, il y en a qui préfèrent le rouge, d'autres qui préfèrent le bleu. Pourtant, ça n'empêche pas de se marier. Vous voyez, il y a ces différences qui sont surtout à ne pas prendre comme des obstacles à vivre cette belle chose qui s'appelle l'unité familiale. Alors, un petit conseil, avant les élections, on essaye de pas trop parler de politique, par exemple. Ou quand on a des divergences importantes, des clivages, on dit, dans le plan religieux, voilà, si vous avez des gens dans votre famille qui sont carrément des tradis, d'autres c'est les charismatiques, les troisièmes, ils sont je sais pas quoi, comment on fait avec tout ça? Eh ben, on parle pas trop de sujets de religion. Vous voyez, une façon d'être des grands-parents pleins de miséricorde, pleins de bienveillance. Quelle est cette relation d'abord pour que cette unité familiale, elle trouve sa racine dans le rapport que nous avons nous-mêmes avec nos enfants? Je fais souvent de ces week-ends que j'appelle les week-ends Anne et Joachim pour des grands-parents. J'en ai déjà fait plusieurs et je vais en faire encore plus l'année prochaine. Et dans ces week-ends, finalement, je pensais qu'il y avait ces sujets à régler entre grands-parents et petits-enfants. Et plus ça va, plus je m'aperçois que les vrais problèmes sont entre les grands-parents et les enfants. Avec les petits-enfants. Vous pouvez vous hocher de la tête parce que c'est souvent le cas. C'est finalement avec vos enfants qu'il peut y avoir des difficultés. Ce sont les épreuves de nos enfants qui sont des maladies, qui sont des soucis professionnels, des soucis financiers. Il y a aussi ces difficultés qu'ils ont dans l'éducation de leurs enfants. Vous voyez, on va y revenir, ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand eux-mêmes ont des difficultés à élever leurs enfants? Il y a ce que vit aussi leur propre couple. Quand je dis couple, ce n'est pas forcément qu'ils sont mariés. En tout cas, ils vivent une vie de couple. Et ils ont ces problèmes de couple qui sont tout de même assez, disons, assez courants. Voir qu'ils sont en train de se séparer, voir que vos enfants sont divorcés. Et pourtant, ils font encore partie de la famille. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ça s'appelle des épreuves que vivent nos enfants. Et on voit bien que ça nous touche de très près. Et que ça touche cette question aussi de l'unité que nous pouvons vivre ensemble. Je ne vais pas développer la question du divorce parce que le divorce de nos enfants atteint toute la famille. Ça atteint les frères et sœurs, les neveux et nièces, etc. Et en premier lieu, leurs propres enfants, qui restent nos petits-enfants. Voilà. Ça, ce n'est pas toujours simple, ces questions de divorce. Quand il y a des familles recomposées, il faut encore accueillir quelqu'un qui va venir là comme une espèce de, j'ose pas dire un nouveau gendre ou une nouvelle belle-fille, parce qu'il n'y a pas de mariage, ils sont simplement ensemble, ils ont refait une union, et ça veut dire qu'on fait quoi avec ça? Et alors il y a l'ancien gendre, et puis il y a un nouveau, etc. On voit bien que c'est pas simple. En tout cas, on peut avoir des avis tranchés sur la question. Je ne pense pas qu'on peut s'autoriser à avoir des avis tranchés là-dessus. Et souvent, c'est par des arrangements que l'on pratique en discutant bien avec nos enfants, et peut-être aussi avec nos beaux-enfants, que l'on peut trouver des arrangements pour que ce soit, comme on dit, au mieux pour tout le monde, et surtout au mieux pour nos petits-enfants. Il y a aussi nos enfants qui ont rompu les ponts. Alors faire l'unité familiale quand on a un des enfants qui ne veut plus nous voir, qui est parti loin, qui ne nous donne jamais de nouvelles, quand il y a des relations qui ne se font plus, et même aussi avec les petits-enfants, du coup, que l'on ne voit plus. Je connais des grands-parents qui vivent cette grande souffrance d'avoir des petits-enfants qu'ils n'ont même jamais vus encore. Ils peuvent avoir déjà 5 ou 6 ans. Voilà, ça c'est quand les ponts sont rompus. Il y a une forme de deuil, et en même temps, quoi faire d'autre? En tout cas, parce que nous sommes dans le temps et que nous en savons la valeur, c'est souvent cette patience qui est la base de ce que nous avons à vivre avec ce que vivent nos enfants ou nos petits-enfants. De la patience. Parce que ce qui est aujourd'hui va peut-être changer. Et très souvent, ça change avec le temps. Et on voit beaucoup de réconciliations qui finissent par se faire même 10 ans ou 15 ans après. Il y a aussi une autre valeur qui nous tient à nous très fortement, c'est l'espérance. Si vous n'avez pas de l'espérance pour votre famille, qui va en avoir, s'il vous plaît? Parce que notre monde ne croit plus à l'espérance. C'est la vertu la plus dégringolée dans notre monde. Et nous sommes capables, je crois, d'espérance. Entre autres à cause de l'expérience que nous avons de la vie. Nous avons une science de l'histoire que l'on a à notre âge, que n'ont pas des jeunes générations. Et c'est ce qui peut nous donner de l'espérance. Voyez que patience et espérance, ce sont deux vertus en rapport avec le temps. Et je trouve qu'il y a un très grand, il y a une synonymie entre être grand-parent et avoir une relation au temps qui doit se transmettre aux autres. Alors il y a des problèmes, il y a une relation en tout cas avec nos enfants qui peut être délicate et en même temps qui est une clé pour tenir cette exigence de l'unité entre tous, mais aussi c'est la clé pour avoir des rapports ensuite bien ajustés à nos petits-enfants. On va le voir parce que on est dans une situation de subsidiarité. Ça veut dire que nous n'avons pas de responsabilité directement de nos petits-enfants. Sauf si on nous l'a donné, ou que parce que les enfants sont plus là et on se retrouve à être, pour ainsi dire, des parents adoptifs des petits-enfants. Mais normalement, ce sont les enfants qui sont responsables des petits-enfants, ce n'est pas les grands-parents. On est d'accord là-dessus. C'est non seulement le droit civil, mais c'est aussi la loi naturelle. Donc on ne peut rien exiger de nos petits-enfants. On n'a absolument pas le droit, par exemple, de les baptiser sans l'accord de leurs parents. Je le répète parce que ça, c'est une chose qui est bien connue. Parce que c'est aux parents à assumer ces choses-là. Et tous les choix importants de la vie de nos petits-enfants, ça se fait au minimum avec cet accord, cette bonne intelligence que nous avons avec les parents. Voilà. Alors maintenant, on peut avoir avec les petits-enfants, bien sûr, des relations toutes particulières, surtout s'ils nous sont confiés. On va rentrer dans la période des vacances, vous allez avoir peut-être vos petits-enfants qui viennent chez vous, et les parents, eux, eh bien, ils font autre chose, ils travaillent, etc. Donc là, attention, vous êtes avec vos petits-enfants. Les enfants ne sont pas là. Et quand on s'est bien mis d'accord avec les enfants, on peut vivre des choses très très belles. Alors là, on vous appelle les chicoufs, vous connaissez ça. Chic, 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 quand ils arrivent, c'est super, on prépare la maison, on fait tout bien, on a déjà des confitures qui sont là, préparées, tout est très bien. Chic, 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 mais à la fin, au bout de 3 semaines qu'ils sont là, ils vous ont dégueulassé le canapé, ils ont cassé la douche, ils ont tout ça. Et puis en plus, ils ont brisé les fleurs dans le jardin. Alors là, vous dites, ouf, ouf, ça y est, ils sont partis. Voilà, c'est un peu rigolo. Mais de fait, comment nous sommes avec nos petits-enfants? Alors là, l'image, c'est la nounou. Or, les grands-parents, aujourd'hui, ils sont de plus en plus des nounous. Oui ou non? Peut-être plus qu'avant, il me semble, même si ça a toujours existé. Mais on va voir, c'est parce que la façon de vivre de nos enfants, surtout quand les deux travaillent, il y a vraiment un problème pour les enfants le mercredi, les week-ends, les petites vacances et les grandes vacances. Faites le tour, ça fait quand même un sacré paquet de mois dans l'année, ça. Et donc on voit des grands-parents qui ont les petits-enfants presque systématiquement quand justement il y a des mercredis, des week-ends et des petites vacances. Alors ça veut dire qu'on est amené effectivement à être des nounous bien souvent. Et les parents aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui, pas ceux d'avant, pas d'avant 2000, mais depuis 2000, les parents, c'est ouf, on va confier les enfants aux grands-parents. Et on décroche le téléphone, voilà, vous pouvez prendre les enfants de telle date à telle date. C'est presque obligé. Il faut pas se faire avoir là. Mais malgré tout, on a trop souvent cette situation d'être des grands-parents nounous. C'est-à-dire que nous faisons le travail des gardes. Alors qu'il faut savoir rester des guides. Pas simplement des gardes, c'est très bien, mais être aussi des guides. Est-ce que nous sommes vraiment simplement de service? Est-ce qu'il y a autre chose à vivre comme ancien, comme aîné, à qui on nous confie des enfants pour lesquels on a d'autres ambitions que simplement vérifier qu'ils mangent bien à table ou etc. Est-ce qu'on est des simples nounous? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir dans certains cas de l'abus de vieillesse quand nos enfants nous demandent ces gardes et qu'on n'en peut plus? Moi, je connais des grands-parents qui sont épuisés. Je connais une grand-mère, elle a 5 enfants et donc elle circule dans les 5 familles. Elle passe les 3 quarts de son année à faire des gardes chez les autres. Elle est complètement épuisée et son mari, il n'en peut plus, évidemment. Voilà, voyez cet abus qu'il peut y avoir, qu'on peut presque appeler de l'abus de vieillesse. C'est pour ça que grands-parents, nous avons à dire aux parents nos désirs, qui sont des désirs très sains, parce que nous voulons bien sûr être au service de nos petits-enfants, mais dans la limite de nos contraintes à nous, de nos limites à nous, qu'il faut savoir expliquer. Ça veut dire qu'il faut apprendre à dire non. Et bien sûr, c'est parce que c'est justifié. Ensuite, cette unité familiale, elle passe beaucoup par des rites. Chaque famille a ses rites et ils sont plus ou moins prenants. Il ne s'agit pas d'avoir des rythmes qui deviennent autoritaires et qui s'imposent, parce que les rites aussi, on sait les faire évoluer. Il y a des rites des générations précédentes qui ne se font plus. Bon, voilà, c'est comme ça, on a changé de monde. Pourtant, il y a une permanence d'avoir, et c'est ça qui fait beaucoup d'unité, c'est d'avoir certaines habitudes qui sont évidemment bonnes et que tout le monde apprécie. Alors ça va de la tarte machin chouette de la grand-mère, que l'on refait systématiquement parce que tout le monde se rue dessus. Et ça fait l'unité de la famille. Voilà. C'est aussi des habitudes à Noël ou des habitudes dans telle ou telle maison. C'est l'habitude de faire tous les ans pèlerinage à Lourdes tous ensemble ou d'aller, etc. On crée des habitudes qui s'appellent des rites quand on les apprécie et qu'on est heureux de les reproduire. Et ça, c'est parce que c'est équilibré. Vous voyez, ça ne prend pas le pas sur aussi des spontanéités ou des choses qui peuvent être tout à fait particulières certaines années. Et vous le savez bien, en particulier avec le rite de Noël. C'est un truc un peu massif, ça. Noël, c'est évidemment ce temps qu'on appelle un temps de la famille. De fait, ça porte en soi, et c'est parce que c'est spirituel d'abord, mais aussi ça devient sociologique. C'est le moment où chacun peut se gêner. C'est la vieille histoire de la trêve de Noël d'autrefois. On faisait la trêve de nos disputes, de tout ça, pour se retrouver, faire des efforts, comme on dit. Et ça existe encore. C'est comme un inconscient collectif. On a besoin de vivre ça au moins une fois par an. Il y a aussi les rites qui se passent dans les vacances, quand ça se passe dans une maison familiale que tout le monde a connue. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde. On n'a pas toujours une grande maison familiale. Mais ça peut être aussi le fait qu'on se retrouve tous les ans en vacances à tel endroit où on loue tous les ans la même chose. Voilà, ça finit par créer un rite. Parce que là, se sont fondés des jeux, des souvenirs, des recettes, des discussions jusqu'à point d'heure, etc. qui façonne un esprit de famille. Vous connaissez cette expression ? Vous comprenez comment avoir un esprit de famille, c'est pas négatif. Parce que ça porte cette solidarité des uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle en sociologie le besoin d'appartenance. Notre monde a régressé sur le besoin d'appartenance. Souvent, on ne sait même pas de quel... Il faut savoir qu'on appartient d'abord à une famille. Avant d'être dans une ville ou une région ou un pays, on a besoin de cette chose qui est tout à fait à notre mesure, qui s'appelle la famille. Et donc, c'est un esprit de famille qui se crée parce que tout simplement, en nous, il y a ce besoin d'appartenance. Voilà. Alors voyez, fouillez ça parce que c'est ça auquel peut-être nous sommes amenés à travailler, à créer cet esprit de famille. Est-ce que je suis clair avec cette expression ? Mon prochain livre que je vais écrire pour les grands-parents s'appelle... Ah non, c'est pas celui-là, pardon. C'est un livre que je viens de sortir sur les familles qui s'appelle « Esprit de famille ». Excusez-moi, je confonds. Je deviens vieux maintenant, ça y est. Voilà. Alors c'est donc cette mission de l'unité qui reste quelque chose d'assez capital. C'est comme ça que l'on a des photos. Une photo, c'est rien. Il y a même des jeunes qui disent « Bon, les photos de mes grands-parents, ça m'est égal. » Il n'empêche que, quand ils vont grandir, ils vont se replonger dans ces photos-là. Donc les photos, c'est un peu le signe qu'il y a quelque chose qui se fait par le temps, progressivement, et qui reste un patrimoine. Un patrimoine. Ça joue aussi avec des objets. Le petit meuble machin que tout le monde aime bien, parce que ça leur donne des souvenirs, tout simplement, ou la maison, etc. Il y a des choses qui font permanence et qui font partie du patrimoine de la famille, voyez, même si ce n'est pas toujours matériel. Les albums de photos, les jeux, on a joué à certains jeux dans des familles. Alors pour certaines, c'est l'Uno ou c'est le Monopoly, etc. Peu importe, mais en tout cas, des jeux, ça crée ça. Et c'est très riche de jouer entre grands-parents, parents et petits-enfants. C'est extraordinaire. Vous avez déjà vécu ça ? Ah, ça laisse des souvenirs extraordinaires. Voilà, c'est tout ça qui fait de l'unité familiale, première mission très importante. Deuxième mission, la mission d'éducation. Alors, je redis bien que être grand-parent, c'est être conscient que nous avons un capital culturel, un capital d'expérience, un capital de connaissances. Un grand-père qui est assez doué dans telle ou telle matière, etc., les petits-enfants vont aller chercher ça. Voilà, ils vont se régaler des histoires du grand-père ou de la grand-mère. On a des choses à donner qu'il est criminel de ne pas donner et de les laisser s'enterrer dans les vieux tiroirs de commode. Il y a des choses qui nous appartiennent, mais qui ne sont pas à nous. Nous les avons vécues et nous avons à leur transmettre. C'est ça la tâche d'éducation, avant d'être des maîtres d'école, etc. Même si on peut leur parler de beaucoup de choses, des connaissances, de l'astronomie ou je ne sais pas trop quoi. Mais d'abord, nous avons un capital, nous avons notre propre vie. Et c'est là que se situe le mot transmettre. Transmettre parce que ce que dit le pape François, par exemple, il le disait en 2014. Pape François a beaucoup parlé des grands-parents. Il en a parlé énormément, très souvent. Il était très soucieux du sort qu'on réservait aux grands-parents dans nos sociétés. C'est moins vrai en Afrique ou en Asie, mais alors dans les sociétés occidentales, ils considéraient qu'on n'avait pas compris ce que c'était que des grands-parents. Alors moi, je me fais le héros de retrouver cette belle mission qu'ont les grands-parents. Et donc le pape François disait, même si pour des raisons historiques, culturelles complexes, les jeunes ressentent actuellement un besoin plus fort d'être autonomes, ok, et de se libérer de l'héritage de la génération précédente, paradoxalement, ils en attendent beaucoup des anciens, sans doute, et de plus en plus, en particulier la génération Z. Génération Z, c'est ceux qui sont nés entre 1995 et 2015, à peu près, vous voyez. La génération Z, c'est actuellement des adolescents ou des grands jeunes. Ils sont à la recherche des personnes âgées. C'est impressionnant. Ils sont à la recherche de ce qu'il y avait avant. Parce que la génération avant leur a dit « Le passé, ça ne sert à rien. » C'était la méthode 68-art. Tout ce qu'il y avait avant, ça ne vaut rien, il faut le supprimer. Il faut faire du neuf et donc il n'y a que les jeunes qui comptent. Et on a une inversion aujourd'hui. Et peut-être que les enfants plus petits s'appellent la génération alpha, c'est ceux qui ont moins de 12 ans à peu près, ceux-là, inconsciemment, ils attendent beaucoup des grands-parents. Regardez bien. Donc nous avons à donner, et en face, il y a une soif qui grandit. Mais que c'est criminel de dire « moi, j'ai rien à leur dire, ils font leur truc ». Nous avons une mission là qui s'appelle donc une mission d'éducation, c'est-à-dire de transmettre. Ce n'est pas une affaire de science, ce n'est pas une affaire de contenu livresque. Il ne faut pas avoir un doctorat de je ne sais pas quoi. Il s'agit d'avoir un art, et un art de vivre qui s'appelle une sagesse, qui permet de transmettre par ce que l'on dit comme par ce que l'on fait. Et ce que l'on fait d'ailleurs passe beaucoup mieux dans la transmission que ce que l'on dit. Vous voyez, on a été autrefois dans une société très verticale et paternelle, où c'était un peu par injonction que l'on transmettait des façons de vie, des habitudes, etc. Faire ceci, pas faire cela, etc. C'est vrai qu'on ne fonctionne plus comme ça, tant mieux, parce qu'on n'est plus à l'ère des pater familias ou des mater familias. Nous sommes passés aujourd'hui à une société plus horizontale de frères, qui est très renforcée d'ailleurs par les réseaux sociaux, mais parce qu'on fait l'excès inverse. On a besoin de retrouver justement le fait que nous, les anciens, nous avons à transmettre quelque chose. C'est comme ça que dans la Russie communiste, il n'y avait plus la transmission. Et pourtant, dans toutes ces horreurs de l'athéisme, ce sont les grands-mères surtout, mais aussi les grands-pères, les babouchkas, qui transmettaient dans le silence des logements, qui transmettaient la foi et toutes les valeurs essentielles de la vie. Les enfants juifs dans tous les ghettos de l'histoire ont gardé leur culture parce que les grands-parents au Shabbat racontaient l'histoire du peuple juif. C'est le mémorial, voyez, de ce qu'on a retrouvé dans la liturgie chrétienne. Donc c'est à la fois spirituel, mais c'est aussi culturel. Il y a aujourd'hui le rapport au numérique qui peut nous tracasser en tout cas. Parce que Internet, les réseaux sociaux et maintenant l'intelligence artificielle, ça semble être beaucoup moins notre tasse de thé. Moi, je vous dis, faites attention, c'est le réel de notre vie. C'est le réel de vos petits-enfants. Pour ne pas lâcher ça, il faut que l'on soit au courant, que l'on soit dans le coup. Et donc, il y a quelque chose qui attend d'être touché dans ces relations avec nos petits-enfants, parce que nous ne transmettrons bien que parce que nous passons par cette forme qui s'appelle la forme numérique, mais qui n'est pas foncièrement différente de ce qui s'est passé avant, quand ça passait par le livre ou par la parole. Voilà. Donc il y a une façon de s'adapter. Pourtant, on n'est pas réduit au numérique, on n'est pas réduit à l'informatique ou à l'intelligence artificielle. Le pape Léon XIV nous a bien fait comprendre ça. On n'est pas dans un monde qui va être régi par des machines. C'est à nous de faire attention justement dans la transmission. Qu'est-ce que nous apprennent nos grands-mères ? Que les concepts n'existent pas, mais qu'il n'existe que du réel. Du réel qui peut être fragile, mais qui attend de nous qu'une seule chose, qu'on apprenne à regarder la réalité. Voilà cette sagesse que des grands-parents peuvent transmettre. Et aucun smartphone ne pourra jamais combler ce besoin de relations authentiques de nos petits-enfants. Il y a certains jeunes de la génération Z qui commencent à saturer de leur smartphone. C'est un tout début, hein, parce que globalement, ça continue beaucoup. Il y a de plus en plus de jeunes qui deviennent addicts des smartphones, ça vous le savez. Mais on voit une petite frange, peut-être des jeunes qui sont un peu plus cultivés ou plus intelligents, qui commencent à prendre de la distance parce qu'ils se savent piégés par ça. Voilà, bon, c'est la grande histoire des smartphones. Et peut-être qu'ils nous remercieront un jour, nous, d'avoir su relativiser ces outils qui ne doivent jamais devenir nos maîtres. En ce moment, on a une période difficile qui, je pense, va passer au bout d'un moment. C'est qu'aujourd'hui, ces machines sont devenues nos maîtres. C'est la dialectique d'Hegel. On croit avoir des esclaves et tout doucement, les esclaves sont devenus les maîtres parce qu'on ne peut pas s'en passer. Et donc, en fait, on se réveille un matin en sachant que c'est l'esclave qui est venu le maître et le maître est devenu l'esclave. Voilà. Donc, ayons là-dessus des idées très claires. pour ne pas être effaré par ce monde qui change, et pour ainsi dire le train qui passe à la gare, eh bien on ne monte pas dans le train. Or, nos enfants et nos petits-enfants, ils sont dans le train. Moi, je vous invite à monter dans le train. Et faites-vous un petit peu former sur ces outils qui sont à la fois très performants, omniprésents, mais qu'il s'agit aussi d'apprendre à régler. Il y a une petite question quand même en matière d'éducation, quand les parents nous refusent toute forme d'éducation vis-à-vis de leurs enfants. Eh bien là, attention, ils sont dans leurs droits. Enfin, je veux dire, on ne peut pas imposer nos vues, en matière éducative en particulier, contre celles de leurs parents. Parce que pensez à cette subsidiarité, vous êtes en complément de ce qu'ils peuvent faire. Et l'idéal, c'est que vous faites quoi que ce soit pour vos petits-enfants en connivence avec les parents, pour ne pas faire le contraire de ce qu'ils font. Parce que ça ne fait pas du bien à l'enfant, tout simplement. Par contre, Dieu merci, beaucoup de parents vous donnent une certaine liberté là-dedans. Il ne s'agit pas d'en abuser, mais cette liberté nous fait comprendre qu'il faut rester toujours dans la confiance par rapport aux parents pour que vous puissiez avoir effectivement un rôle d'éducateur. C'est pour ça qu'il y a toujours besoin d'une saine discussion avec les parents, plus ou moins rationnelle, voilà. Surtout si on vous dit, mais il ne faut pas parler de la religion et de la foi, il ne faut pas leur dire ça, vous blessez leur liberté, etc., etc. Ça, c'est les plus durs qui raisonnent comme ça. Je crois qu'ils sont de moins en moins nombreux. Aujourd'hui, on a plutôt des parents qui sont soit laxistes, soit en tout cas permissifs. Et justement, ils vous laissent votre part. Même certains qui n'ont pas la foi disent « Mais c'est très bien que vous leur parliez de Jésus parce que nous, on ne sait pas faire. » Ça vous arrive à certains, ça ? Vous vous sentez libre de le faire parce que leurs parents ne vous ont pas dit de ne pas le faire. Et s'ils disent rien, à la limite, c'est qu'ils approuvent, presque. Donc, il faut être astucieux. Il faut oser. Il faut oser éduquer. Il faut oser, chaque fois qu'on le peut, faire passer des principes, des choses importantes. Vous savez, on parle beaucoup du respect, etc., tout ça, mais ça passe par des quantités de petites choses, des gestes, et des façons dont nous-mêmes, c'est parce que nous le vivons, et parce qu'on va le vivre avec une grande cohérence, qu'ils vont comprendre. Et ça, autrement dit, on influence nos petits-enfants. On ne prétend pas mettre la main sur eux et on dit aujourd'hui, de l'emprise, vous voyez, on n'a surtout pas ça. Mais simplement en vivant avec eux, c'est très important de pouvoir leur transmettre ce qui fait la structure de notre vie. Il y a aussi, je vais passer très vite là-dessus, une mission très importante, c'est de donner de la tendresse. La tendresse, c'est la vertu aussi par excellence des grands-parents. Quand je dis la tendresse, c'est parce qu'on est dans un monde qui a beaucoup érotisé l'affectivité. L'affectivité, c'est bon pour tout le monde, vous comprenez ? C'est notre capacité à vivre des belles choses dans les relations qui nous font du bien et qui passent souvent par le corps. Quand on s'embrasse, qu'on se prend les mains, qu'on pleure ensemble, tout ça, c'est de l'affectivité. Et donc, nous avons, nous, les grands-parents, quelque chose qui s'est éloigné de l'érotisation, dont les gens plus jeunes, trop vite, la tendresse, ça devient sexuel. Alors c'est deux choses très différentes. La tendresse, c'est bien plus que le sexuel. C'est d'ailleurs vrai déjà dans un couple. Mais nous, grands-parents, nous savons ce qu'est cette valeur de la tendresse parce que ça nous sort des pores, qu'en vieillissant, on a besoin nous-mêmes de tendresse. Vous savez, il y a deux âges où la tendresse est très importante, c'est les petits et les vieillards, les gens plus âgés. Quand un vieillard est déjà en train de perdre beaucoup de ses capacités, il n'entend plus, etc., il reste qu'on lui prend les mains. Que c'est un langage, vous voyez. Donc la tendresse, c'est donner une qualité, une délicatesse dans les relations qui se perd beaucoup trop dans notre monde. Les gens jeunes, vous savez, ils ont des ébats sexuels très violents et après, il n'y a plus rien. Je vois beaucoup de couples qui ne pratiquent plus la tendresse. C'est tout ou rien, c'est du sexuel ou alors du factuel, voilà. T'as pensé à acheter le sel, machin, tout ça, les discussions dans les couples. Au milieu, il y a cette part de la tendresse où on se dit les choses en souriant, avec bienveillance, en écoutant l'autre plutôt que de parler tout le temps, etc. C'est toute la notion de relation qui se fait dans de la tendresse. Le pape François disait « Chère grand-mère et cher grand-père, vous êtes appelés à être dans le monde des artisans de la révolution de la tendresse ». Vous voyez un grand ado là qui supporte pas que sa maman vienne l'embrasser parce que c'est un grand. Eh bien, avec la grand-mère, il va se laisser faire, n'est-ce pas? Alors voilà cette qualité aussi, cette mission encore une fois, qui est de passer de la tendresse, parce que ça construit non seulement les enfants, mais aussi les ados. De la tendresse qui est une valeur divine, la tendresse. On dit si souvent dans l'Écriture que Dieu est tendre et miséricordieux. J'en viens à la troisième mission, la mission de transmission de la foi, avec toutes les valeurs qui sont inhérentes. Beaucoup de grands-parents ne sont pas assez impliqués dans cette transmission de la foi, parce qu'ils disent très souvent que ce n'est plus leur tâche de faire des leurs les disciples du Christ, ça relève des parents. Ils estiment que cette tâche relève de la responsabilité des parents. Ils ne pensent pas que la responsabilité du développement spirituel de leurs petits-enfants appartient aussi finalement à toute la famille. Et surtout, non pas parce qu'on est un bon catéchiste, pas ça qui vous est demandé, mais d'être un témoin de la foi, gardien de la mémoire de Dieu. Et en plus, parce que vous avez une certaine expérience de l'humanité, vous pouvez parler de façon beaucoup moins docte de la foi, parce que vous allez en parler avec votre vécu. Ah, alors ça nous bouge. Il va falloir répondre aux questions de petits-enfants. Hein, n'est-ce pas? Alors mamie, c'est quoi la mort? Pourquoi on dit que on va être vivant après la mort? Et puis les questions de mais Jésus, pourquoi il est né dans le corps d'une femme? Alors il n'est pas le fils de Dieu, etc. Est-ce que vous vous êtes pas fait surprendre par des questions de vos petits enfants? Oui? Il y en a qui posent pas de questions, c'est ça? Eh ben s'ils posent pas de questions, c'est parce que vous n'êtes pas vous-même un sujet de questions. Et si nous-mêmes on vit pas la foi, c'est sûr qu'ils vont pas nous poser des questions. Mais c'est parce que je tiens à aller à la messe le dimanche et même d'autres fois, et que je leur explique pourquoi, et pourquoi ça me rend heureux, que ça va développer beaucoup de questions chez eux. Et que très certainement des petits-enfants suivent leurs grands-parents pour aller à la messe, s'ils voient que c'est tellement important pour leurs grands-parents. Vous voyez qu'on n'est pas assez témoins, et c'est pour ça que la foi peut-être ne passe pas assez chez nos petits-enfants. Vous allez me dire, je vous remonte les bretelles, là, c'est ça? Oui, vous êtes prêts, tout ça. Enfin, pour nous, c'est pas aussi facile. Mais moi, je pense qu'il faut se bouger là-dessus. Parce que le pape François le demandait beaucoup, ça. Il disait, les grands-parents, vous êtes maintenant en charge de l'évangélisation de vos familles. Parce que dans les faits, c'est pas vos enfants qui le font la plupart du temps. Je dis la plupart du temps, bien sûr, c'est pas vrai pour toutes les familles. Oui ou non? On se réveille, là? Alors, est-ce qu'il ne faut pas aussi se faire cette bonne question qui est quand même une question de conscience? Est-ce que je suis toujours à la hauteur de ce que le Seigneur attend de moi? Et la seule exigence, c'est de vivre, s'il vous plaît, le plus possible dans la cohérence de l'Évangile. Parce qu'un Évangile qui est vécu par quelqu'un, c'est comme ça qu'il est transmis. C'est pas simplement par la parole. Vous avez bien un trésor à transmettre. C'est le trésor de votre foi. Mais il ne faut pas se lamenter en baissant les bras, en disant ah « ben, je suis désolé, mes petits-enfants ne sont pas baptisés, alors qu'est-ce que je fais ?» C'est mon mode de vie, c'est ma prière, c'est ma tendresse, c'est tout cela et c'est ces petits dialogues qui se font si souvent, comme ça, de façon impromptue avec vos petits-enfants, c'est tout cela qui crée, qui réveille plutôt le désir de la foi chez vos petits. Ça se vérifie dans les faits. À commencer par la façon dont vous avez vécu le mariage. Parce que Dieu merci à votre génération, on continue à se marier, et souvent à l'église. Oui ou non? Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a un souci là. Parce que les jeunes, même qui ont la foi, ils disent, bon, je sais pas, ils sont ensemble, ils ont des enfants, ils achètent des maisons, mais voilà. Et moi, j'ai marié des gens qui avaient 55 ans, ils étaient depuis 35 ans déjà mariés. Mais c'est vrai qu'ils avaient découvert la foi sur le tard. Bon. Et donc, on a cette question d'avoir à transmettre aussi ce qu'est la beauté du mariage. C'est tellement important en famille. Il y a les grands-parents qu'on aime bien d'ailleurs très très bien fêter pour leurs 50 ans de mariage. Tout le monde est content et tout le monde dit comment vous avez fait pour tenir 50 ans. On devient une question là-dessus. C'est dire qu'il y a une valeur. C'est une bombe ça. De dire que nous, on s'est disputé, on a vécu des hauts et des bas, mais on est toujours ensemble et on a construit quelque chose. Qu'est-ce qu'on a construit? Vous. C'est vous qu'on a construit. Le fruit du mariage, c'est les enfants et les petits-enfants. Donc il y a là aussi une bombe, vous voyez, à témoigner de ce qu'est la valeur de la fidélité dans le mariage, parce que ça, les jeunes, ils s'en foutaient il y a 30 ans, mais maintenant, ça commence, on les voit, ils aimeraient savoir comment on fait pour être fidèle. J'ai de nombreux exemples dans ma vie de prêtre où j'ai vraiment touché du doigt cette soif de la fidélité chez nos jeunes. Alors, ils n'y croient pas assez, c'est pour ça qu'ils sont si hésitants. Mais ça va peut-être basculer dans quelques temps, je ne sais pas. Donc, nous avons, nous, cette charge, voyez. Et même quand on est soi-même divorcé, qu'on n'a pas refait sa vie, qu'on est resté fidèle à l'autre, ça a aussi une valeur de témoignage impressionnante, voyez. On a pu être abandonné par son conjoint, mais parce qu'on est resté surtout fidèle par rapport à cette famille que nous avons fondée, eh bien, je vous assure, ça fait un travail énorme dans le cœur des jeunes, ça. La transmission de la foi. Transmission de la foi à proprement parler, on peut se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, ou plutôt mal fait, pour qu'il n'ait pas la foi? Et je vois beaucoup de grands-parents qui sombrent dans la culpabilité, en disant, j'ai tout raté, quoi. Moi, j'y suis pas arrivé. Alors, on regarde du côté des belles familles chrétiennes, soi-disant, là. Il faut voir, les belles familles chrétiennes, il y a aussi des choses atroces. Hein. Mais alors on dit, ah, ceux-là, voilà, les petits-enfants, ils sont baptisés, comment ils ont fait? Alors moi, je suis nul, quoi. Ça, c'est le malin qui va vous travailler pour dire, tu as mal fait et c'est foutu pour tes petits-enfants. Ça, c'est un grand péché contre l'espérance. Parce que vos petits-enfants ne sont pas baptisés maintenant, mais vous n'avez pas de souci, hein. On peut être baptisé aujourd'hui à 20 ans, à 40 ou à 60. Ce n'est pas une question de fond. On est sorti de l'époque où on pensait qu'un enfant qui n'était pas baptisé, il était foutu, il allait en enfer. On n'en est pas du tout là. Donc je pense qu'il faut penser plutôt mission, il faut penser évangélisation, parce que bien sûr qu'on évangélise des gens qui ne sont pas baptisés, bien sûr. Et ça vous revient dans vos familles, qui sont des terrains de mission. N'allez pas chercher à transmettre la foi à l'autre bout du monde, vous l'avez dans vos propres familles. Et donc, ils n'ont pas la foi? Bien, la vraie question, c'est qu'est-ce que je fais? Le meilleur apostolat, c'est ce que dit l'apôtre Pierre, rendre compte de l'espérance qui est en nous. Et d'où ça vient cette expérience? Réfléchissez. Si vous grattez, ça vient de tout ce que vous avez mis du côté du Seigneur, de tout ce que vous avez investi, de tout ce que vous avez espéré. C'est pour ça qu'une question importante du côté de la foi, c'est la mort. Que notre monde est en train de perdre. La mort, le monde ne sait pas expliquer la mort. Nous sommes les seuls, nous les chrétiens, à avoir quelque chose de positif dans la mort. Vous allez me dire, moi, vous savez, mon père, moi j'ai très peur de la mort. Oui, c'est naturel. Mais fondamentalement, si vous avez la foi, vous savez ce qui vous arrive de l'autre côté? Vous le savez ou pas? Est-ce que vous l'avez dit à vos petits-enfants? Il faut le redire 36 fois. Parce qu'on sort de ce dilemme où la vie ne sert à rien, elle n'est faite que de matière qui va se détruire, la vision matérialiste, il ne reste plus qu'à se suicider. Et voilà pourquoi le suicide assisté va augmenter dans nos pays, parce qu'il n'y a plus cette espérance de quoi? De la vie éternelle. Il faut parler de la vie éternelle. Et dans les catéchismes, pendant 30 ans, on n'a plus parlé de ça. On voit le résultat. Donc voyez, ça vous revient, parce que vous-même vous approchez de cette échéance. J'ose pas vous regarder, vous êtes encore jeune, mais pourtant vous voyez bien que vous en êtes plus près. Et c'est pour ça que la question devient cruciale. Voilà, et vos petits-enfants vont dire, mais quand tu vas mourir, comment ça va se passer, etc. Très très bon. Tous les enfants se posent la question de la mort. Et tous les parents, pratiquement, ne savent pas quoi répondre. Alors il faut aller chercher les grands-parents. Vous avez beaucoup de choses à dire sur cette question de la mort, de l'éternité. Aussi de la sainteté. Parler de ce qu'est le péché, parler de ce qu'est la sainteté, parler de ce que nous sommes des sauvés. Nous sommes malades, nous sommes pécheurs. C'est ça notre réalité. Et à notre âge, nous le savons encore plus, ça. Mais nous avons, comme grands-parents chrétiens, cette fois-là, un atout extraordinaire. Nous savons que nous sommes sauvés, malgré tout. Et ça, des grands-parents qui croient ça, je vous assure, ça se voit, ça se sent. Ça se sent et ça infuse. Vous savez, la foi, comme disait le pape Benoît XVI, c'est une infusion, c'est une contagion. La foi, c'est une contagion. Alors, si vous voulez être des grands-parents heureux, et des grands-parents aussi heureux dans ces trois missions, de faire l'unité de votre famille, de transmettre, de les éduquer à toutes les bonnes choses, et de leur transmettre la foi, il vous reste quoi ? Question à 100 balles. Toc, 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 toc. Il faut avoir de l'espérance, ça j'y crois énormément. Il faut cultiver l'espérance, parce que toutes les vertus se cultivent, hein, ça ne tombe pas comme ça. Non, mais il y a quelque chose de plus important. Si vous voulez être des grands-parents, il faut être des... des saints. Voilà, ça doit être votre programme, devenir des saints. Ça vous fait peur, hein ? Mais la sainteté, c'est le bonheur, je vous signale. Alors, je finis avec la prière, parce que dans la transmission de la foi, il y a aussi cette place qui vous est accordée, qui est d'être les piliers de la prière. La prière, parce que vous priez avec eux. S'ils sont chez vous, je suis désolé, chez vous, on fait le bénédicité, on bénit le repas. C'est très simple à faire, ça marque beaucoup les esprits, ça. Vous avez des petits temps de prière le soir, en famille, faites-le. Les parents sont là, sont pas là, bon, essayez d'arranger ça avec eux, comme vous pouvez. À Noël, vous avez la crèche chez vous, c'est pas un objet de décoration. C'est pas simplement un bricolage qu'ont fait les enfants. Pas un bricolage de plus. C'est là que vous allez vous retrouver pour prier avec eux. Pensez-y. Voilà. Alors bon, il y a donc ces choses qui sont de l'ordre de la prière, qui s'extériorisent, pour ainsi dire, et qui se vit en famille. Mais il y a aussi votre prière à vous personnelle, seul ou en couple, où vous êtes les piliers de votre famille parce que vous êtes les paratonnerres spirituels pour tous. Ça veut dire que vous allez monter sur la montagne souvent. Et bien sûr que vous avez envie de prier pour vos enfants, non ? Et que vous avez envie de prier pour vos petits-enfants. Mais est-ce que vous leur dites que vous priez pour eux ? Est-ce que vous avez une petite boîte quelque part, un WhatsApp, quelque chose où chacun peut dire « Grand-maman, est-ce que tu peux prier pour ça ?» Alors ça circule. On voit dans la famille que vous êtes les chargés de déclencher les grâces d'en haut. C'est ce que vous êtes venus chercher à Lourdes, non ? Vous êtes venus chercher des grâces aussi pour vos enfants et vos petits-enfants. Eh bien, je vous annonce une bonne nouvelle, vous en aurez. Mais oui, parce que vous êtes fidèles dans cette prière. Et donc, vous priez régulièrement dans ce qu'on appelle l'intercession. Mais aussi, peut-être, de savoir rendre grâce pour vos petits-enfants. Pour ce qu'ils sont de beau, ce qu'ils réussissent. Même si vous ne comprenez pas qu'ils ont fait ça, parce que vous n'auriez pas fait ça. Ils ne sont pas faits comme vous. Mais réjouissez-vous de ce qu'ils sont. C'est à eux de porter le monde de demain, ce n'est pas à vous. Mais donnez-leur les choses essentielles dont ils ont besoin. Don Bosco disait « Intéressez-vous à ce qu'ils font ». Et ils s'intéresseront à ce que vous portez. Voilà une clé aussi très importante. Voilà, alors j'ai parlé un peu de la messe. Je vous ai dit qu'il ne faut surtout pas dire « Moi, je ne vais pas à la messe quand mes enfants sont là parce que ça les embête, ils n'ont pas envie. Alors comme je reste avec eux, je ne vais pas à la messe. » Oh mon Dieu, quelle erreur dramatique. Donc il y a ces choses qu'il ne faut pas louper. Voilà, donc ayez un comportement de saint. Et on évite les comportements qui sont porteurs de négativité, quoi. Être grand-parent, c'est finalement un formidable aiguillon pour se sanctifier. Nous portons les contradictions du monde parce que nous les voyons chez nos propres enfants et petits-enfants. Faut pas vous étonner que ce soit quelque chose de difficile d'être grand-parent. Mais quelle belle mission! Parce que, enfin, prenez votre place là où vous devez la prendre. Je suis certain que le Seigneur vous le demande. Moi, je suis certain qu'on n'est pas assez audacieux. Donc, je résumerai votre comportement à quoi ? À l'audace, en particulier annoncer la foi, l'audace et la tendresse. Ça vous va ? Audace et tendresse. Je m'arrête.